ce soir, on reçoit Emmanuel Cosse et Gaël Cricorian, toutes les deux co-auteurs, parmi de nombreux autres, du livre « Cette France-là ». Sous-titré 06/05/2007/30/06/2008. Et il y a un marqué dessus puisque c'est le premier volume. Est-ce qu'on peut dire en deux mots ce qu'est la genèse de ce projet qui aboutit pour une première étape, si j'ai bien compris, à ce premier volume ?
Oui, effectivement, c'est un volume, donc a priori parmi cinq, puisque l'objectif, c'est de, enfin très brièvement, l'objectif, c'est de chroniquer la politique d'immigration du gouvernement Sarkozy, donc chaque année, un volume par année. Alors la genèse du projet, en fait, ça remonte à la période de la avant l'élection de Nicolas Sarkozy, la période de campagne, pendant laquelle, on était un collectif de gens qui sont, enfin, des amis, des militants qui ont été engagés dans d'autres groupes avant et qui se sont retrouvés parce que, enfin, autour d'une inquiétude montante sur la place que cette question de l'immigration jouait dans le jeu politique de Nicolas Sarkozy. Et donc, à l'origine, c'était donc une tentative qu'on a fait pendant la campagne, par le biais d'une campagne d'affichage, en fait, d'essayer d'attirer un peu l'attention, de questionner un peu le public sur ce que produisait cette politique d'immigration. Et donc, on avait cinq affiches sur cinq cas de personnes qui avaient été expulsées. Et donc, l'objectif, c'était vraiment très, très basique. C'était montrer ces gens qui subissent la politique et raconter brièvement, en gros, ce qui leur est arrivé, essayer de donner un visage à la politique et aux effets de la politique. Donc, voilà. Ensuite, il a été élu.
Voilà.
Donc, après quelques mois de déprime, on s'est dit qu'il fallait qu'on... Enfin, on pouvait pas s'en tenir là.
Juste, quand même, tout de même, pour préciser un peu, ce « on » qui a l'air d'avoir des contours flous, c'est aussi des gens qui ont l'habitude de militer, je sais pas, autour de...
C'est tout, c'est-à-dire...
Enfin, bon, il y a nos noms, on est une vingtaine de personnes. On a donc écrit ce livre à 20. Bon, évidemment, nous deux, on est des anciennes militantes d'ACT UP. Donc, voilà, il y a des gens qui sont militants, qui ont été à ACT UP, mais d'autres qui ont été militants dans des groupes d'aide aux sans-papiers, d'autres qui ont été au GISTI. Donc, il y a des gens très engagés depuis longtemps sur la question des sans-papiers, sur la question les questions des répressions aussi. Mais il y a aussi des philosophes, des journalistes, des gens qui arrivent là de manière très affinitaire. Et, en tout cas, pour moi, qui ai un long passé militant, ce groupe-là, c'est un peu autre chose. C'est pour ça qu'on parle d'un collectif. Et objectivement, c'est au départ, ce qui fait qu'on a travaillé ensemble, c'est parce qu'on a envie de faire des choses ensemble, mais c'est vraiment affinitaire avant de se retrouver sur des idéologies, des idées, des slogans, tout ça.
Alors reprenons avec le coup de déprime collectif qu'on a bien connu ici en mai de 2007, donc l'installation de Nicolas Sarkozy au pouvoir après une campagne tout de même avant peut-être d'en passer, une campagne très dure sur la question des sans-papiers. Emmanuel Terret, qui était venu ici juste après cette élection, disait qu'il analysait la situation en disant que c'est la réunification de la droite et de l'extrême droite, la victoire de Sarkozy.
Oui, nous, ce qui nous préoccupait, c'était, au-delà de un nombre incalculable de choses qui peuvent nous préoccuper avec le fait que Nicolas Sarkozy soit président, mais ce qui nous préoccupait sur la question de l'immigration, c'était à la fois ce qu'on voyait faire, ce qu'on voyait arriver à des gens, et ce que ça créait dans la société française, et puis c'était les questions qu'on se posait sur ce qui se jouait politiquement autour, pour lui, qu'est-ce qu'il faisait avec cette question-là, qu'est-ce que ça représentait pour lui politiquement de s'en saisir de cette façon-là. Donc on s'est dit, effectivement, maintenant qu'il est élu, on peut pas juste se contenter d'être déprimé. Et puisque maintenant il va la mettre en œuvre, de façon encore plus importante que ce qu'il avait déjà fait auparavant quand il était au ministère de l'Intérieur, eh ben on va essayer de, on va raconter ce qui se passe. Enfin, ça c'était la première idée. On s'est dit il faut dire ce qui va se passer. On sait à peu près ce qui va se passer. Mais on veut regarder dans le détail et on veut être capable de chroniquer ce qui va avoir lieu. Donc ça c'était la première idée. Puis ensuite, on a réfléchi. Donc on s'est dit, comment on fait ça? On s'est dit, on fait un bouquin. On fait un truc très sérieux, une espèce d'almanach.
Un livre de contre-expertise.
de contre-expertise, parce que ça, c'est la place à partir de laquelle on parle. Mais l'idée, c'est de faire un ouvrage très sérieux, très, très documenté, et a priori, pas sur un ton militant, c'est-à-dire que, enfin, contrairement à d'autres choses qu'on peut faire par ailleurs dans nos vies ou dans d'autres groupes, là, l'objectif, c'était pas a priori de dénoncer ou de dire ce qui nous choquait, c'était de donner à voir et d'essayer de donner à voir les effets de la politique, de donner à voir les rouages de la mise en place de cette politique, c'est-à-dire qui sont les acteurs qui sont parties prenantes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire, jusqu'où ils vont, et puis aussi essayer d'analyser qu'est-ce que ça veut dire, enfin pourquoi une politique pareille, c'est quoi la rationalité de cette politique, c'est quoi sa cohérence ou éventuellement son incohérence.
Alors, juste avant de venir sur la politique précisément qui est en place depuis maintenant deux ans, qui se met en place, il y a tout de même, depuis plusieurs décennies, en gros depuis les années 70, les gouvernements successifs qui ont été en charge des questions d'immigration, on sent qu'il y a eu à chaque fois des aggravations, des dénis de droits pour les immigrés. On voit bien que, y compris quand on a eu des gouvernements de gauche, même si ça s'aggrave moins vite, ça s'aggrave plus lentement, on n'est jamais revenu réellement en arrière sur l'ensemble de ces lois. Qu'est-ce qui fait que l'arrivée de Sarkozy, pour vous, pose un problème supplémentaire, qu'est-ce qui ne se justifiait pas sous Chirac, qui se justifiait déjà par ailleurs?
Oui, enfin, on pouvait, comme Emmanuel le rappelait, on a été voir dans le groupe, il y a plein de gens qui ont pris part à d'autres combats préalables sur la question des sans-papiers. Et effectivement, on pourrait dire, ce qu'on voit avec Sarkozy, c'est le renforcement d'une tendance. On est obligé de se rendre compte qu'on passe à un stade supérieur sur certains aspects, parce que, on le voit dans les outils juridiques, on le voit dans le nouveau rôle qui est donné au préfet, on le voit dans ce qu'on demande à la population de faire ou aux gens qui travaillent pour différentes administrations publiques. Enfin, voilà, il y a des choses, on renforce une tendance. Alors, on peut se dire, après tout, c'est juste, c'est la même tendance qu'avant. Là où, pour nous, il y avait de l'innovation, c'était d'une part que c'était ce que disait Sarkozy. Lui-même disait que il était dans une, dans sa politique sur l'immigration et au-delà, il voulait faire rupture. Donc nous, notre pari, c'était aussi, prenons le au mot et voyons en quoi est-ce qu'il fait rupture. Et là où il fait rupture, je pense, c'est la question de à quoi lui sert cette politique. Il fait rupture parce qu'il utilise cette politique-là pour faire quelque chose politiquement. On va sans doute développer un peu cet aspect plus tard. Ça.
Surtout, je crois, pour compléter ce que dit Gaëlle, en effet, il n'y a pas un changement, radical en 2007. Parce que Sarkozy, ministre de l'Intérieur, met déjà en œuvre des éléments de sa politique migratoire telle qu'il l'envisage en tant que président. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans notre livre, très souvent, on est obligé de revenir aussi aux réformes antérieures 2003, 2005, 2006, parce qu'on est quand même dans une continuité, c'est-à-dire qu'il a préparé, notamment sur les outils législatifs, sur l'autonomie des préfets, sur toute la culture du résultat qu'il impose aux flics, pas seulement sur les questions des sans-papiers d'ailleurs, mais dès 2002 sur la question sécuritaire. Fait qu'il y a une continuité de ce point de vue-là. Mais en même temps, ce qui change en 2007 avec Sarkozy président, c'est aussi une chose énorme, c'est la création du ministère de l'Identité nationale. C'est ça. Et puis l'autre chose, c'est ce que dit Gaëlle, c'est aussi l'usage que l'on fait de la question des migrations pendant la campagne électorale. Et comment est-ce que Sarkozy instrumentalise ce discours pendant la campagne, rappelez-vous, la France, on l'aime ou on la quitte. La France, c'est le pays de l'amour. On va recueillir toutes les femmes opprimées, ceci, cela. Mais en même temps, on peut choisir nos étrangers. Ça aussi, c'est des inflexions nouvelles. Et puis, pour revenir sur le ministère de l'Identité nationale, donc création, je suis sûre qu'ici, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Ça change aussi quelque chose, cette nomination d'un ministère. Ça change d'une part en termes d'organisation politique, puisque un certain nombre de fonctionnaires vont se retrouver sous la tutelle de Hortefeux, enfin en tout cas de ce ministère, et plus du ministère de l'Intérieur, de la Justice ou même du Travail. Il faut se rappeler les conflits avec les inspecteurs du Travail que Hortefeux veut mobiliser dans la chasse aux sans-papiers. Il y a ça, il y a le renforcement des objectifs privés, et puis il y a le fait qu'au niveau politique, on nous explique, en tant que Français, qu'on fait ça en notre nom. Puisque, en fait, Sarkozy veut défendre la politique migratoire parce qu'il veut défendre notre identité nationale. Donc c'est aussi un énorme changement, parce que, quelles que soient nos positions politiques et nos votes, malgré tout, ce ministère agit au nom du peuple français. Et donc, soi-disant, il va travailler pour défendre notre identité nationale. Donc ça change quand même énormément les choses qu'un gouvernement mette en place une politique de répression, une politique qui implique la collaboration de tous les services administratifs et des fonctionnaires pour défendre un concept qui est quand même extrêmement scandaleux, qui est celui de l'identité nationale. Donc c'est ça la différence. Après, c'est vrai, et on a beaucoup d'organisations et d'associations, on fait ce bilan depuis longtemps. Il y a depuis 20 ans un durcissement des politiques migratoires comme, enfin, dans le reste de l'Europe, hein, c'est pas seulement d'ailleurs au niveau français. Il y a eu des aggravations sous la gauche, mais aussi sous la droite. Enfin, je veux dire, on sait très bien que c'est une question qui se durcit. Et par exemple, puisque à Gaël, on parle d'expérience passée, en 98, je me rappelle de mobilisation qu'elle en a participé avec le Gistier et d'autres organisations sur la question de la carte de 10 ans. Aujourd'hui, si on devait faire des mobilisations sur la carte de 10 ans, je pense qu'on nous prendrait pour des fous. Enfin, il y a aussi une régression totale dans le débat. Parler de termes comme liberté de circulation, carte de 10 ans, on a l'impression d'être scandaleux quand on dit ça aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, on pouvait en parler, y compris avec des parlementaires socialistes. Donc évidemment qu'il y a eu des changements. Mais néanmoins, 2007, c'est un tournant. Voilà.
Alors juste, on évoquait le ministère de l'immigration confié à Hortefeux. On peut peut-être préciser quelles sont les prérogatives de ce ministère. On voit bien le contexte idéologique dans lequel il est mis, mais c'est pas un ministère sans personnel, sans moyens ni rien. C'est aussi un ministère à qui on attribue un certain nombre de prérogatives, dont une partie de la tutelle du musée de l'immigration par ailleurs. Est-ce qu'on peut essayer de préciser ça ?
Alors, après, c'est un peu compliqué d'entrer dans les détails. Mais c'est vrai que, notamment dans notre livre, on a analysé très longuement la lettre de mission de Nicolas Sarkozy après Hortefeux. Parce qu'elle est exemplaire de ce point de vue-là sur, en gros, ce que Sarkozy veut faire et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a la question des moyens. C'est-à-dire que quand ce ministère est créé, c'est pas seulement un ministère qui n'aurait qu'un nom. Il se retrouve avec énormément de fonctionnaires qui vont travailler sous sa tutelle, avec donc des moyens afférents et aussi des compétences importantes, puisque c'est Hortefeux qui va pouvoir faire la circulaire sur le travail, qui va enjoindre les agents de la NPE, donc aujourd'hui de Pôle emploi, de vérifier les papiers, d'enjoindre les inspecteurs du travail, de pousser le ministère de l'Éducation nationale à aller voir qui sont les parents, enfin qui pourraient être les enfants de parents sans papier. C'est évidemment ce ministère qui va donner toutes les injonctions aux forces de police, et c'est extrêmement important parce que c'est un rouage extrêmement important de la politique migratoire. Et puis surtout, dans la lettre de mission, en gros, de Nicolas Sarkozy à Brice Hortefeux, ce qu'on demande à Brice Hortefeux, c'est deux choses. C'est d'une part, en fait, tout tourne autour de deux thèmes, c'est l'immigration subie, l'immigration choisie. En gros, selon Sarkozy, il faut diminuer l'immigration subie, que la France n'aurait pas choisie. Donc, en gros, ce qui vise, c'est le regroupement familial, l'immigration familiale, pour développer l'immigration choisie, c'est-à-dire faire venir en France des personnes qui, par leur talent, je vous rappelle qu'on a créé une carte de séjour qui s'appelle Talents et compétences. C'est ça, oui, c'est ça. Non, parce que parfois, j'ai des doutes à force. Hortefeux doit développer cette immigration choisie, qui est donc de faire venir des étrangers compétents, talentueux et qui vont travailler pour la France. Donc c'est ça, en gros, la lettre de mission de Nicolas Sarkozy. Donc avec ce qui veut dire...
Ce qui, par ailleurs, est une carte de séjour relativement précaire. Quoi. Oui, c'est un petit peu le système comme ils avaient mis en Allemagne. C'est-à-dire qu'on souhaite inviter des gens à apporter leur savoir-faire, leurs compétences et tout à France, mais en même temps, on leur propose même pas ce qui serait la carte de 10 ans et tout. On leur propose malgré tout un séjour relativement précaire.
Absolument. Et puis justement, enfin, on peut y revenir même sur le bilan au bout d'un an. C'est que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le bilan est si faible dans les questions enfin si faible, je veux dire que si Hortefeux n'a pas réussi, puis Besson aujourd'hui, à avoir tant d'immigrés qui viennent au nom de l'immigration choisie, s'ils viennent pas, c'est justement parce que ce que n'ont pas compris Sarkozy et Hortefeux, c'est qu'un migrant, même s'il est travailleur, il a une famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté faire une répression accrue de tout ce qui est famille de sans-papiers, les enfants, les travailleurs, les célibataires, les femmes, tout ça, de vraiment accélérer les expulsions et la répression là-dessus, et en même temps de dire à des gens, venez pour travailler en France. S'ils ne viennent pas avec une assurance d'avoir une carte de séjour sur la durée, avec la possibilité pour leur famille de venir, d'étudier, de travailler, évidemment, il y a ça. Il faut quand même se rappeler que au bout d'un an de travail d'Hortefeux, il ne pouvait son chiffre sur les cartes talents, c'était 38 personnes qui avaient obtenu la carte de séjour. J'ai pas les chiffres en tête pour la période qui est actuelle, parce que là on s'est arrêté donc au 30 juin 2008, mais bon, il faut quand même se rappeler ça. Et puis bon, juste pour terminer sur ta question sur les histoires de l'aide de mission et tout ça, c'est vrai aussi qu'Hortefeux a eu beaucoup de moyens financiers. Il y a aussi évidemment ce que tu dis sur avoir une place importante sur le musée de l'immigration, mais c'est aussi mobiliser des chercheurs. Il y a toute la question de la recherche sur l'immigration, le fait qu'ils aient voulu encadrer beaucoup tout ce que serait le travail de sociologues, de juristes, d'historiens sur les questions migratoires. Donc, il y a aussi des mobilisations là-dessus. Et il y a aussi également tout ce qu'Hortefeux a fait en matière diplomatique avec les accords bilatéraux, qui sont donc des accords entre la France et un pays. Il y a eu pas mal d'accords qui ont été signés pour faciliter la réadmission, mais aussi pour aller choisir la main-d'œuvre dont on a besoin dans certains pays. Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'un ministre de l'immigration avait autant de pouvoir.
Nettoyer.
Ça veut dire quoi nettoyer ?
On va faire le grand nettoyage.
Qu'est-ce qui doit être nettoyé ?
La France. La France. La France.
Comme un joueur, comme un avant-centre de trappe. Fallait que j'esquive, que j'échappe à la trappe. Fallait qu'à tout berzingue, je calte, je fuis. Et c'est depuis que le long des berges du canal du Midi, à la vitesse des saisons de Vivaldi, un métro sous une flottille d'impuissants m'a dit t'es pas des nôtres, même avec ton accent. Et il provoquait des bouchons derrière une Jeanne à califourchon. Il disait France, j'ai compris le pamphlet. J'ai compris qu'il voulait m'enfler. Et c'est vrai, j'avais pas les traits d'un fromage de moine, pas la tronche du patrimoine. Et comme l'aurait dit Nicolas S. Eureka, on en tient, il a le profil adéquat. Et ça fait tic 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 par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic tic tic, t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Si tous les chemins mènent au pape, moi j'ai tout compris à la première étape. J'ai pas fait la tortue comme dans les fables. Me suis dit la potiche m'aurait pris pour un anglais. J'apercevais le long des quais des bateaux prêts pour un aller sans ticket. Pour une croisière, et là ça se tient. Tu marches pas non, tu cours comme un Éthiopien. Qui a dit assez de jambes, allez c'est à vous. Demain sortira la façon Sidney Govou. Et dans ce marathon où j'étais pas de Steve Hoffman, j'ai couru, c'était pas le marathon de Manhattan. C'était une autre zique qui sauvait ceux qu'on passait chez l'éducation physique, eux. Il fallait du souffle mazette, de cœur et les trois poumons d'un athlète. Et ça fait tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic 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 et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic 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 et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. J'avais pas envie de me coucher, votre Altesse. Ni une, ni deux, pas plus que ni quoi, ni caisse. J'ai dit je trace et quand je vais déraper, même les souvenirs ne pourront pas me rattraper. Ah, je peux dire qu'est-ce que j'ai couru quand j'ai vu que l'affaire était courue. D'avance pour moi et pour ceux de mon espèce, obligé de faire parler la vitesse. Moralité, il nous faut des jambes en béton. Et quand ça craint, tu peux leur dire partons. Et en cas de république en carton, on est prêt pour le marathon. Y'a toujours un juste un bidou qui s'approche et te dit t'es doux. À tes doux, j'ai dit que ça fait la différence. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Et ça fait tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. d'urgence. Y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Tic 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 et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Tic 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 et par avance, j'ai pris mes clics, mes claques et mes distances. Et t'as d'urgence, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Et ça fait tic tic tic, j'ai pris mes clics, mes claques. Et ça fait tic tic tic, y'a toujours un connard qui veut sauver la France. Fais
du patrimoine Magid Cherfi, c'est toujours les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Oui, alors je voulais qu'on revienne un peu sur la forme du livre, sur la construction en fait qui est un peu particulière, assez intéressante, sur le fait de par exemple mettre en miroir les récits de personnes victimes de mesures d'éloignement et le témoignage sur les actions particulières des préfets par exemple. Ou est-ce que tu peux nous parler un peu?
Absolument.
De ça?
Donc en fait, le livre, il est organisé selon quatre parties. La première, c'est des portraits de sans-papiers qui, dans l'année que l'on couvre, ont eu des soucis avec la question des papiers. Donc soit ont eu des mesures d'éloignement qui ont été exécutées, ils ont été expulsés, soit des personnes qui ont été régularisées après moult problèmes, soit des personnes qui ont eu plein de soucis ou pas et qui se retrouvent toujours dans un no man's land juridique à la fin de cette période. Je vais décrire les parties, après on peut peut-être revenir dessus. Ensuite, on a une seconde partie où on a voulu voir comment se mettait était mise en pratique la politique de Nicolas Sarkozy en faisant en fait en déroulant un fil, c'est-à-dire qu'on est parti des choix du président Sarkozy, puis de sa lettre de mission Hortefeux, et puis ensuite on a regardé dans tous les services administratifs et aussi dans certaines entreprises privées comment la collaboration se faisait à cette politique migratoire. Donc on a regardé ce qui s'était passé dans les préfectures, dans les polices, dans les centres de rétention, qu'est-ce qui se passait avec les magistrats, comment se passait la mobilisation, par exemple, de la NPE ou des écoles, mais aussi comment se créaient des résistances d'élus, d'associations, de syndicats.
De travailleurs sans papier.
De travailleurs sans papier également, bien sûr. Et alors, après, on a une troisième partie qui est un peu plus courte, où on a fait 20 portraits de préfets, qui vient un peu en balance de 80 portraits de sans-papiers, sans-papiers ou aujourd'hui étrangers régularisés, où là, notre idée au départ était de faire autant de portraits de préfets que de sans-papiers, mais on n'a pas pu le faire pour un manque de temps, pas pour un manque de contenu.
Malheureusement.
Et donc, l'idée, c'est de... on a voulu décrire l'œuvre de ces préfets, puisqu'ils ont obtenu une autonomie beaucoup plus forte... sur la politique migratoire, voir ce qu'ils faisaient, comment ils s'arrangeaient avec la loi, comment ils s'arrangeaient avec les procédures, quel était leur discours, etc. Et puis, la dernière partie, qui est une partie beaucoup plus courte, il s'agit plutôt de donner un peu des réponses, des contre-argumentaires, justement. Alors, peut-être pas aux gens très engagés sur la question, aux militants, mais plutôt à des gens qui s'interrogent à comment répondre aux arguments de Sarkozy. Est-ce que c'est une politique rationnelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment je peux répondre? C'est quoi le coût de cette politique? Donc, il s'agissait de donner des billes là-dessus et aussi de s'interroger sur une question qui, à mon avis, est essentielle. C'est pourquoi cette politique migratoire ne crée pas plus de résistance? Notamment dans la société, notamment dans les partis de gauche. Pourquoi elle ne crée pas plus de mobilisation et est-ce qu'on ne peut pas essayer justement d'en créer? Donc voilà comment on a organisé les choses. Et c'est vrai que pour nous, il était très important qu'il y ait ces portraits de sans-papiers parce qu'on ne peut pas non plus faire de la contre-expertise sans... avoir le vécu et la parole des personnes qui sont les premières réceptrices de cette politique. Et ça nous paraissait extrêmement important qu'elles soient toujours au cœur du bouquin.
Gaëlle.
Oui, et puis enfin, et aussi parce que c'est aussi un point d'entrée sur la question pour n'importe quel citoyen français d'être confronté à la violence qui s'exerce et à l'injustice qui s'exerce et de se dire enfin voilà, ça peut aider les gens à prendre conscience du fait qu'il y a un problème et que peut-être il faut s'y intéresser. Juste pour poursuivre un peu sur ce que tu disais sur la dernière partie, je crois que effectivement enfin l'objectif c'était essayer de, enfin de la même façon qu'on a essayé de décrire et de montrer quels étaient les rouages et comment ils se mettaient en place, l'objectif c'était aussi de déconstruire le discours de Sarkozy, d'une part pour essayer de voir ce qu'il essayait de faire, à quoi ça lui servait de raconter toutes ces choses-là, et d'autre part pour voir comment on peut à différents moments se positionner et puis refuser un certain nombre de choses ou faire des propositions alternatives. Et je pense que un des trucs les plus significatifs de ce qu'il fait, et c'est ce qu'on voit au travers de ses discours, c'est quand même que ça nous donne, ça propose un certain nombre de rapports nouveaux avec l'immigration, de représentations nouvelles, de choix, comme ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de dire maintenant le choix, la politique d'immigration, c'est pas qu'on est des gros racistes ou qu'on est extrêmement xénophobe, ces choses-là, c'est juste que on a une certaine idée de la France, on pense que les gens qui viennent doivent partager avec nous cette idée-là, et donc notre politique de l'immigration, c'est d'une part l'immigration qu'on subit et dont on veut pas, et d'autre part celle qu'on choisit. Donc on est ouvert à certains étrangers, et voilà. Donc on essaye de montrer un peu comme ça quelles sont les propositions qui sont faites, et puis après on essaye aussi de montrer que éventuellement c'est absurde ce qui est proposé, parce que dans les faits, ça se passe pas comme ça, et c'est ce que racontait tout à l'heure Emmanuel. C'est bien gentil de dire on a une politique d'immigration choisie et donc on accueille un certain nombre de gens les bras grands ouverts et tout ça. Et donc, nous aussi on a du cœur, blablabla. Enfin, on n'est pas contre les étrangers en général. Dans les faits, on se rend compte que ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Enfin, ça fonctionne pas pour un certain nombre de raisons qu'Emmanuel a commencé à expliquer, mais enfin principalement si on veut que la France soit quelque chose d'attractif, intéresse les étrangers. Enfin, il y a quand même un peu de boulot à faire. Et dans les discours publics sur l'immigration et l'image qu'on donne des immigrés et de leur place en France, et sur les choses qu'on leur offre quand ils sont ici, effectivement, en termes de droits pour eux-mêmes, pour leur famille, de pérennité de leur statut, etc., etc.
Oui, dans le livre, en fait, quasiment tous les aspects de la politique de Nicolas Sarkozy est abordé assez en détail. Alors, je voulais revenir peut-être sur deux, trois aspects, notamment sur un chapitre qui s'appelle « Le sexe de l'immigration » et qui montre bien la bascule du discours, comme tu disais, on n'est pas contre les étrangers, les accueils à bras ouverts, notamment les prostituées qui sont victimes de l'esclavage, les femmes persécutées, etc. Et puis finalement, comment ça se retourne d'abord contre les prostituées, vu qu'il y avait eu tout un arsenal de lois qui les visait, et comment aujourd'hui, les femmes en particulier, sont coupables par définition pour les questions de mariage blanc, la question aussi de l'affiliation, etc.
Alors, je crois que c'est extrêmement important de... Enfin, c'est un très bon exemple pour aussi comprendre un peu la bascule qui a été faite et dans le discours et dans les pratiques. Parce que, même si, désolée de revenir un peu là-dessus, c'est vrai que quand Hortefeux ou Sarkozy parlent de pourquoi ils font cette politique, au nom de quoi, ils sont depuis un an et demi, maintenant c'est Besson qui nous fait le coup aussi, c'est toujours le cœur sur la main pour nous expliquer qu'ils font ça par amour pour la France et pour défendre le multiculturalisme de la France. Il faut bien comprendre ça. Les arguments qu'ils utilisent, c'est pas pour dire c'est pour protéger la France. Ils sont plus dans un registre, je parle bien de rhétorique, je parle pas de ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes, mais dans la rhétorique qu'ils utilisent, ils sont plus dans l'idée, dans un truc très proche de l'extrême droite ou conservateur du genre, on fait ça pour défendre la France, notre territoire. Non, non. Ce que nous disent ces gens-là aujourd'hui, c'est que soi-disant cette politique-là de tri en fait des étrangers, elle est faite pour défendre cette France multiculturelle, amoureuse des droits de l'homme, qui accueille des gens que comme on aime bien les accueillir, Il faut le faire bien. Il faut bien penser quand ce que dit Sarkozy, c'est extrêmement intéressant. Il reprend à plusieurs reprises la déclaration de Michel Rocard qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il ne prend pas la suite, parce que Rocard disait après, mais chacun doit, la France doit en prendre sa part. Ce que dit Sarkozy, c'est on ne peut pas accueillir, on doit accueillir dignement. Il lui parle de dignité. C'est qu'en gros, il nous explique que s'il fait cette politique-là, de répression, c'est parce que les gens qu'on accueille, il faut le faire dignement. Et donc, par exemple, on va accueillir toutes ces femmes persécutées. C'était, rappelez-vous, son discours le soir de son élection, quand même, où il fait 10 minutes là-dessus, sur l'amour de la France, et que la France va tout changer, et que maintenant, elle accueillera dignement les femmes persécutées, la femme africaine, etc., etc. Dans la réalité, ce qu'on voit, ça avait déjà été mis en œuvre dès 2003, avec la loi sur le racolage passif, qui a augmenté la répression envers les travailleurs du sexe, et notamment qui a vraiment visé les prostituées étrangères qui se sont trouvées de plus en plus contrôlées. Ce qu'on voit, c'est une part, pour prendre l'exemple des prostituées, c'est qu'elles ont été très souvent arrêtées au nom de la loi sur le racolage passif, mais ce n'est pas des amendes pour racolage qu'on leur a mis tout de suite. On les a poursuivies pour manque de papier et elles ont été expulsées. Dans cette loi, il était prévu aussi que si elles... ces femmes ou ces hommes dénonçaient leur réseau, leur proxénète et tout ça, elles auraient des cartes de séjour. La réalité, c'est que ça n'a jamais été le cas et qu'on a simplement appliqué une politique uniquement répressive en les expulsant ou en leur mettant des OQTF sur leur situation. L'autre chose, c'est aussi une répression accrue des couples. Donc il y a une visibilité qui a été donnée là-dessus avec le groupe qui a été créé, les amoureux au banc public, qui a dénoncé ça. Mais il y a depuis 2 ans une chasse aux couples binationaux. Et évidemment, ça vise beaucoup les femmes qui sont déjà souvent dans des situations de précarité assez fortes, où on a donc des élus ou des préfectures ont remis en cause des projets de mariage, ont arrêté des gens le jour de leur mariage. On a plusieurs cas dans les portraits justement qui racontent ça. On a expulsé des gens quand ils venaient publier les bancs à la mairie, ils ont été arrêtés à ce moment-là. Et puis des personnes qui ont subi des interrogatoires extrêmement compliqués côté place en garde à vue pour justifier de leurs liens, comme par exemple, vous avez combien de rapports sexuels par semaine, c'est quoi vos liens et c'est quoi les positions. C'est tout ça est relaté dans notre livre, mais aussi dans des rapports qu'ont publié les amoureux en public. Mais donc, il y a eu aussi, évidemment, une chasse là-dessus. Il y a eu aussi des couples paxés, parce qu'il y a aussi des couples homosexuels qui ont subi la même chose. Et il est important de noter, même s'ils sont moins nombreux que les couples binationaux hétéros. Donc, c'est vrai qu'il y a eu on va dire une différence énorme entre le discours d'accueil, y compris des femmes persécutées, et la réalité. On le voit aussi, là, on n'a pas pu le traiter dans le livre, mais on le traitera cette année, la question de l'excision, parce qu'on a plusieurs cas là qu'on est en train de travailler, où justement, de la même manière, on avait expliqué que les familles qui s'engageraient à ne pas exciser leurs filles, ou si le renvoi dans un pays pouvait être un risque pour des jeunes filles d'être excisées, on donnerait des papiers, etc. La réalité, elle n'est pas là du tout. Et qu'il y a beaucoup de familles qui, aujourd'hui, sont sans papier, sont sous la menace vraiment forte d'excision si elles sont expulsées dans leur pays, et les préfectures les expulsent. Donc il y a aussi il y a une pratique qui est très éloignée du discours développé depuis un an et demi.
Oui, sur cette question, rhétorique versus la réalité, il y a un truc vachement intéressant, c'est que le fait que Nicolas Sarkozy affiche des objectifs assez mirobolants et un peu tous azimuts, c'est ce qu'il fait depuis qu'il est... pendant sa campagne et puis depuis qu'il est élu, quand il nous dit que voilà, la France va tout changer pour la vie des femmes dans le monde, ou quand il nous disait qu'on allait augmenter le pouvoir d'achat, toutes ces choses-là à chaque fois. Donc voilà, c'est son attitude. C'est une attitude aussi nouvelle dans sa façon de faire de la politique et sa façon de se présenter comme chef d'État, où contrairement à ce qu'on a pu voir par le passé ces dernières décennies, il y avait un peu, que ce soit la droite ou la gauche, en gros, on nous expliquait le monde, c'est super compliqué, c'est globalisé, il y a des tas de problèmes et tout ça. Donc l'État ne peut pas tout faire. Même à gauche, quoi, on nous disait qu'il va falloir que vous débrouiller un peu sur un certain nombre de trucs, que vous fassiez des efforts, et voilà, nous, on peut pas tout faire. Lui, en gros, il arrive avec un discours qui, et je pense, séduit aussi pour cette raison-là, c'est qu'en gros, il dit, attention, si on veut des trucs, on peut les faire. Et moi, voilà, moi, je veux, et moi, je vais faire ça, 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 ça. Alors, évidemment, il y a un risque, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il fait pas vraiment ce qu'il a dit. Donc, il peut être soit un petit peu... soit il a menti, soit il peut même être assez ridicule, et en ce moment, je crois qu'on a pas mal d'exemples de ça. Mais c'est là où il y a cette histoire de la politique de l'immigration. Parce que la politique de l'immigration, c'est un des rares trucs sur lequel il a affiché des trucs et il fait tout pour les obtenir. Alors, pas sur le côté on va protéger ces gens, on va faire de l'immigration choisie et tout ça, mais effectivement sur le côté répressif. Et c'est la politique du chiffre. Et ça lui sert à ça. La politique du chiffre, ça lui sert à dire... Voilà, moi j'affiche ça et je fais ça. Je suis volontaire et je suis aussi efficace. Et j'ai dit on va virer je ne sais plus combien de personnes. Et effectivement, il met les moyens et on a viré je ne sais pas combien de personnes. Et donc c'est une question politiquement pour lui. Je ne sais pas... Bien sûr, au passage, il récupère l'électorat xénophobe sans avoir à dire des horreurs, d'ailleurs, puisque de toute façon, on fait tout ça pour le bien de tout le monde. Mais au passage, ce qu'il fait, c'est surtout ça qui l'intéresse, c'est renforcer sa crédibilité, son capital politique.
Ceci dit, dans le journal aujourd'hui, il parlait de l'expulsion des Roms et de la question de l'expulsion des Roms vers la Roumanie, qui est une façon aussi de gonfler les chiffres de personnes qui, de fait, peuvent...
Absolument. Non, mais absolument. Il faut.
Non, mais après, il y a des tas d'incohérences. Enfin, je veux dire, le truc aussi, c'est que les chiffres qu'ils ont filés, enfin, d'où ils sortent, comment ils les ont fabriqués, pourquoi ces objectifs, enfin, c'est très. On peut se poser des milliards de questions. Et après, qu'est-ce qu'on les voit faire? Enfin, et c'était ça qui était, enfin, parmi toutes les immondices, se rendre compte que, enfin, il y a des gens qu'ils expulsent. Ils devraient pas les expulser pour des tas de raisons. Mais le problème, c'est que comme c'est la politique du chiffre, les préfectures, la police, etc. Tout le monde est sous surveillance et doit remplir ses quotas. Et donc les mecs, bah, au bout d'un moment, au début, ils expulsent ceux qui sont les plus évidents. Puis au bout d'un moment, ils se mettent à expulser des gens qu'ils auraient pas dû expulser. Mais enfin, ils essayent d'atteindre leur quota.
Surtout, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire cette politique du chiffre, puisque donc il y a des objectifs chiffrés par département d'expulsion avec donc des chiffres globaux, c'est si je dis pas de bêtises, il faudra m'excuser, c'était 26 000 expulsions pour l'année 2008 et 27 000 pour 2009 pour Besson. Bon, je me confonds un peu, mais tout est dans le livre et bientôt ça sera en ligne sur notre site, donc vous pourrez les vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, comme tu le dis, sur 26 000 expulsions, déjà on sait que sur ces chiffres-là, pour Cortefeu fasse son bilan et puisse, juste avant de quitter son ministère, nous dire « Vous avez vu comme j'ai bien travaillé, j'ai même réussi à en faire un peu plus », ils ont expulsé des Roms de Bulgarie et de Roumanie, environ 13 000, en sachant que ces personnes, qu'on peut en effet expulser, ont de toute façon la liberté de circulation en tant que citoyens européens, donc ils reviennent au bout de 3 mois. Donc ça permet de gonfler les chiffres.
Et donc il y en a qui ont été comptabilisés plusieurs fois d'ailleurs.
Absolument.
On a des témoignages
surtout,
de Bagnolet.
Bien sûr, tu les arrêtes, tu leur donnes leurs 150 euros ou 200 euros maintenant par l'ANAEM pour le retour au pays, et puis ils reviennent au bout de 3 mois. Mieux, tu les mets. Ce qui s'est passé plusieurs reprises, c'est qu'ils ont expulsé des Roms vers la Belgique simplement pour qu'ils sortent du territoire et ils re-rentrent. Mais on s'en fout, ça. Ce qui intéresse la préfecture, c'est de pouvoir comptabiliser dans son quota départemental le nombre de personnes qui sont expulsées, même s'ils les expulsent en Belgique. Ils reviennent Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a bien d'autres saloperies qu'on a détaillées. C'est par exemple des personnes sans papier, enfin non, avec papier, mais dont les visas ont expiré à quelques jours près, qui rentrent, par exemple, au Maroc en prenant un car qui passe par l'Espagne. Ils arrivent à la frontière franco-espagnole, la police les fait descendre et les expulse. Sans évidemment leur donner leur bagage, ce qui veut aussi dire beaucoup de choses au niveau de la vie pratique de ces personnes. Et donc, comme ça, on comptabilise des personnes qui, de toute façon, rentraient. Mieux, on a expulsé des touristes. On, au nom de cette politique du chiffre, on a aussi expulsé des étudiants, mais on a aussi expulsé qui rentraient pour les vacances. On a expulsé des touristes qui rentraient chez eux. Mais pour les rentrer dans la politique du chiffre, on les expulse. Donc, il y a une mobilisation comme ça qui est déjà... complètement folle. Mais par ailleurs, et ça, ce sont des chiffres donnés par les préfectures elles-mêmes, vu la question du droit au recours et tout ça, les préfectures, maintenant, et la police, ont fait des savants calculs pour à peu près voir combien fallait arrêter d'étrangers pour être sûr d'en expulser un certain nombre. En gros, c'est un rapport, si je ne me trompe pas, de 1 à 5... Il faudrait que je retrouve la page dans nos 450 pour vous dire le chiffre exact, parce qu'on l'a calculé. Ça veut dire qu'en gros, pour arriver à 26 000 expulsions ou 27 000, il va falloir au moins arrêter plus...
25 000.
Combien tu dis ?
125 000,
mais même, je crois qu'en fait, on avait calculé que ça devait être 300 000 parce qu'il faut en passer en garde à vue. Puis après, il faut que ça réponde à des critères. Il faut que ces personnes ne soient pas libérées une première fois par le juge des libertés et détention. Il ne faut pas que ces personnes rentrent dans un cas d'inexpulsabilité, etc., etc., etc. Ça veut dire qu'en plus, pour arriver à ce chiffre-là, on va mobiliser énormément de gens et on demande à la police, en gros, de faire que ça. Mais tout ça, on n'en parle surtout pas après. Parce que le bilan au final que va présenter Besson ou que présentait Hortefeux devant les médias ou devant son gouvernement, c'est « Regardez, j'ai rempli mon quota ». Et c'est ce que font aussi les préfets. Et c'est pour ça aussi qu'on a malheureusement pas eu de difficulté à trouver énormément de cas de personnes expulsées avant qu'elles fassent leur recours, de personnes expulsées alors qu'elles étaient inexpulsables, etc., etc.
Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Ils ont lâché les chiens, les matraques et le taser. Opération Gestapo, nettoyage au Karcher. La nouvelle circulaire de la haine est très claire. C'est tout le monde dehors, à coups de grosses rangers. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Monsieur le président a dit à monsieur le ministre de dire à monsieur le préfet de faire péter les registres, de remplir les charters, les consignes sont très claires. À la porte, les métèques, on veut que des pots clairs. Les ordres sont d'usés, de méthodes efficaces. Appel à délation pour expulser les sales races. Paris a déposé air d'un Vichy sous l'occupation. Réminiscence d'une époque, le fantôme s'appelle Papon. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours, mon frère, cours, ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté. Et maintenant, silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Un mouton. T'as tes papiers ?
Attrapez-le !
Non. Dommage.
Entendez-vous, chers citoyens, le cor de chasse qui sonne. Française, français, entendez-vous l'hymne guerrier qui résonne. Au nom de la patrie, des droits de l'homme, je décrète. Quand ce pays, la chasse à l'homme est désormais ouverte. Du 1er janvier au 31 décembre. Sachez, chassez, comme bon vous semble. Chasse en pleine, chasse à court, chasse à la passée. Chassez, croisez les chasseurs à court, ça y est, la meute est lancée. Petit lapin, sors de ton terrier, vers ton pays lointain. On doit te faire retourner. Peu importe, c'est là-bas, c'est la mort qui t'attend. Six pieds sous terre, hors la loi, hors de la loi, des yeux loin du cœur, cœur de pierre. Cours, cours, tu peux toujours courir. Cours, cours, toi devoir partir. Cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, t'es sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Un enfant vient de naître,
la chasse est ouverte.
Une femme se jette par la fenêtre,
la chasse est ouverte.
C'est la sortie de l'école,
la chasse est ouverte.
Au berceau, à l'hôpital,
la chasse est ouverte.
Aux armes, citoyens,
la chasse est ouverte.
Du 1er au 31,
la chasse est ouverte.
Automne, hiver, printemps, été,
la chasse est ouverte.
Samedi, dimanche et jours fériés,
la chasse est ouverte.
Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Les Oreilles Loin du Front et on est avec Emmanuel Cosse et Gaël Cricorian à propos de la publication du livre « Cette France-là ». Sophie.
Oui, donc on disait le livre aborde vraiment tous les aspects de la politique de l'immigration de Sarkozy. Il y a un aspect qui me semble vraiment très important parce que on n'en parle pas tant que ça finalement. En métropole, c'est les lois d'exception en fait qui sont votées, enfin qui sont appliquées dans les territoires d'outre-mer et qui,
vas-y, pardon. Oui. Et les territoires d'outre-mer, enfin les territoires d'outre-mer, c'est vachement important pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on voit le chiffre global qui est affiché sur les expulsions, donc que j'oublie tout le temps, mettons que ce soit 26 000, en fait les DOM-TOM, enfin
les DROM.
Enfin, les DROM, ça représente une énorme part de ça. Enfin, la grosse majorité des expulsions, c'est là qu'elles se passent. Donc, non pas qu'on ait envie forcément de remplir les quotas, mais on se rend compte de la disproportion totale. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens des DROM disent, c'est que, en gros, c'est quand même massivement chez eux que ça se passe, les pratiques d'expulsion. Et puis, c'est aussi, ça se passe aussi dans toute son absurdité, c'est-à-dire que, par exemple, en Guyane, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, nous, ici, on reconduit des étudiants qui partaient en vacances, ou des touristes, ou des Roms, ou etc. Là-bas, on fait traverser le fleuve Maroni à des gens, et puis on sait très bien qu'après, ils vont prendre le fleuve dans l'autre sens, mais on s'en fout. On comptabilise des chiffres. Donc on est dans une espèce de délire total. Après, l'autre point essentiel sur ces territoires, c'est que oui, effectivement, depuis longtemps, en fait, ça fonctionne un peu comme un espèce de laboratoire d'expérimentation. C'est-à-dire que là-bas, comme de toute façon, personne ne fait trop gaffe. Et ça, c'est vrai, c'est notre problème. C'est la responsabilité de tous. Après tout, c'est la France. On est censé aussi faire un petit peu attention à ce qui s'y passe. Et de fait, on ne le fait pas tellement. Là-bas se passent des tas de trucs et là-bas on innove juridiquement. Donc on a des lois d'exception et puis on a aussi des pratiques d'exception. On tente des trucs parce qu'on sait que ce sera moins facilement repéré. Donc voilà, donc double intérêt à s'intéresser là-bas. D'abord parce que là-bas il se passe énormément d'horreurs, mais aussi parce que là-bas on nous prépare les dispositions juridiques qu'on va après ensuite essayer de nous réintégrer à un niveau national et hexagonal, donc.
Alors, je pense que c'est intéressant de parler un peu de Mayotte, puisque Mayotte va devenir un département d'outre-mer. Et Mayotte est un très bon laboratoire pour la politique migratoire française, en sachant qu'on ne peut pas non plus ignorer la situation géographique et l'histoire de Mayotte. Puisque donc Mayotte est à côté des îles des Comores, et qu'il y a depuis des siècles des flux de population qui vivent sur ces îles-là. Et c'est vrai que l'évolution de Mayotte, qui est restée française, au contraire des autres îles qui ont obtenu leur indépendance, c'est que...
Suite à une magnifique magouille, s'il faut rappeler qu'en 1974, il y avait un référendum pour demander si les Mayottais étaient... Si l'ensemble des îles étaient d'accord pour être indépendantes ou rester dans le giron français. Il y a trois îles qui ont voté pour l'indépendance, une qui a voté pour rester dans le giron français. Ils ont modifié derrière ça les termes du référendum pour, alors que c'était un choix global, pour ne garder qu'une des quatre îles dans le giron français. Donc il y a en plus un passif politique qui
est assez lourd, absolument. Et c'est vrai que la réalité aujourd'hui à Mayotte et dans les îles autour, c'est que c'est des familles qui vivent sur une île puis sur une autre, qui par leur activité économiques ont toujours navigué sur plusieurs de ces îles et se retrouvent aujourd'hui donc avec Mayotte qui devient un bastion français et qui expulse. En sachant par ailleurs que, et bon, ça on l'a vu à l'occasion du débat sur le référendum à Mayotte, l'état civil étant ce qu'il est à Mayotte, 60% de la population n'a pas d'état civil, on imagine dans quelles conditions se fait justement les expulsions, puisqu'il n'y a pas de... L'état civil est clairement établi. Et donc, on a vu ainsi à Mayotte que pour expulser plus rapidement des mineurs, comme on ne sait pas trop quel âge ils ont, si vraiment ils sont mineurs, parce que théoriquement, les mineurs sont donc protégés, ne peuvent pas être expulsés comme ça. Alors, soit on les rattache à des adultes qui ne sont pas leurs parents, c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises, soit on fait des tests osseux, qu'on fait aussi par ailleurs en France, mais là, on les fait de manière beaucoup plus organisée, et on décide arbitrairement que quelqu'un qui en paraît 15, finalement, à 19 ans, et donc peut être expulsé. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. ça. Mais sauf qu'à Mayotte, c'est une vraie industrialisation parce que les expulsions se font par milliers, elles sont beaucoup plus importantes. Et en plus, il n'y a pas de mouvement de contestation comme il peut y avoir. Il y en a, mais je veux dire, il n'y a pas eu de mouvement de. Notamment de sans-papiers, même s'il y a quelques mobilisations. On a vu, grâce à des journalistes relativement engagés, des reportages, des infiltrations dans le centre de rétention de Mayotte pour voir un peu ce qui se passait. Et on a pu voir c'était quoi le centre quand on arrivait à s'y infiltrer en caméra cachée et comment il était le lendemain quand le préfet le visite, où d'un seul coup, les femmes ont retrouvé des matelas, elles ont droit à des douches et c'est plus bouché, alors que la veille, elles étaient plusieurs centaines entassées à même le sol avec leurs enfants. Donc il y a toutes ces histoires-là. Et je crois que c'est extrêmement important parce que c'est énormément de gens mobilisés sur place pour pratiquer ces expulsions et en effet je pense que ça marche bien en termes de laboratoire. Et puis un peu pour parler d'actualité, il y a eu la réponse de l'appel d'offres sur l'aide juridique dans les centres de rétention qui est tombée avant-hier. Et donc, puisque ça a été divisé par lot, donc c'était tout ce que faisait la CIMAD auparavant. Et donc, le lot Outre-mer a été octroyé au collectif Respect, qui est un collectif inconnu des militants de la cause des sans-papiers. Pour cause, c'est un collectif qui a été créé par des proches de l'UMP pour défendre l'identité française et le respect de la Marseillaise à la suite d'un match de football en 2001 ou en 2003, je ne me souviens plus. Mais voilà, aujourd'hui, on vient de donner la question de l'aide juridique dans les centres de rétention à un collectif qui, un, n'a pas la compétence et deux, qui promeut des objectifs qui sont quand même loin de l'aide juridique. Et on le donne, et c'est dans l'outre-mer, c'est-à-dire dans des départements qui sont déjà, où déjà le droit est totalement bafoué, où on ne donne pas les moyens et aux associations sur place et aux sans-papiers d'user de leur droit de recours. Et en plus, là, on en restreint encore plus les possibilités d'avoir au moins. Je ne dis pas que ça change la donne totalement, mais c'est important, par exemple, que des acteurs comme la CIMAD soient dans ces centres de rétention, car c'est la seule source actuellement fiable pour dire simplement ce qui s'y passe. Ça a une valeur de témoignage qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est quand même essentielle aujourd'hui. Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand on a fait ce livre-là, c'est aussi pour pouvoir ressortir des choses qu'on ne dit pas assez, qu'on ne voit pas assez ou qu'on ne dénonce pas assez. Il y a des structures qui font des rapports depuis très longtemps et l'ANAFE pour les zones d'attente, la CIMAD pour les centres de rétention, le JISTI pour la question du droit des travailleurs, ils dénoncent beaucoup, il y a beaucoup de rapports. Mais c'est vrai que si nous, on peut aussi contribuer à donner un écho à ce qu'ils écrivent et à ce qu'ils observent, c'est important. Et là, actuellement, on voit bien que tout ce qui est... Enfin, on voit bien aussi qu'on cherche un peu à nous faire taire sur ces questions-là et à faire taire la visibilité sur les DOM. Et je crois que c'est important de réussir à trouver d'autres biais pour continuer ça.
Pour garder quand même un peu d'espoir, il y a c'est dit dans le livre, il y a des résistances qui se font plus ou moins, parfois individuellement, mais qui s'organisent aussi. Donc, tu parlais de l'ANAFE, vous faites un point aussi sur RESF, vous faites le point, on en a parlé au début d'émission, sur la lutte des travailleurs sans papier. Donc,
enfin, il y a un truc. Enfin, oui, il y a deux types de choses. Enfin, il y a les mobilisations qui sont des mobilisations organisées. Enfin, un peu. Enfin, qu'on connaisse qui existaient avant. Enfin, par exemple, enfin la CIMAD. Enfin, les gens qui avaient accès au centre de rétention, par exemple. Et donc là, on voit bien que le problème qui se pose, c'est qu'on. Enfin, la politique du gouvernement, c'est d'essayer de bloquer cette activité-là. Donc, ça pose des sérieux problèmes en termes de juste. Simple démocratie, je crois. Donc là, on est un peu pessimiste. Les trucs qu'on a vus et qui étaient vraiment intéressants, c'était effectivement des choses comme RESF, c'est-à-dire quand n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas particulièrement dans une activité militante ou un travail d'expert, bah, simplement réagit et puis essaye de s'organiser pour avoir une réaction parce qu'il trouve que ce qui se passe est en train de, est juste insupportable à plein d'égards. Alors bon, enfin, on peut trouver que c'est bien que ça se soit fait, que ça va peut-être pas si bien en ce moment. Enfin, je sais pas, je peux pas faire un bilan de où on en est. Je pense que, enfin, c'est aussi la chose qui nous a un peu donné d'espoir en faisant ce travail, c'est qu'on a quand même vu des fois, enfin, on a vu voilà des gens qui travaillent à la NPE et puis qui refusent de faire de la délation, des gens qui, c'est des professeurs des écoles qui refusent de participer à un certain nombre de choses, qui essayent de bloquer l'action de la police, etc. Et c'est d'autant plus important que la tendance inverse qu'on essaye de nous imposer, c'est au nom donc d'une certaine idée de la France et d'unité de notre culture qui serait parfaitement définie comme ça et puis à laquelle on se raccrocherait, on demande aux gens de faire des trucs affreux. Enfin, c'est-à-dire le minimum, c'est juste se taire, pas voir et continuer sa vie tranquillement. Et puis voilà, et après il y a plein d'autres choses qui passent par... transmettre un certain nombre d'informations, pas empêcher un certain nombre d'actions, etc., etc. Donc quand on voit des simples citoyens qui réagissent, bah oui, enfin c'est de ça dont on a besoin. On a besoin que d'une part les gens comprennent qu'ils peuvent le faire, ils ont le droit de le faire, ils ont aussi des droits pour faire ces choses-là, et aussi bah, on a besoin qu'ils aient le courage de le faire. Parce que sinon, c'est la tendance d'élation qui est poussée par certains préfets, par exemple, qui l'emportera, où on vous explique que c'est bien si vous allez raconter ci et là et donner des détails sur vos voisins, etc.
L'autre, juste pour compléter ce que dit Gaëlle, l'autre mouvement qui me paraît important de noter, en tout cas dans la période qu'on a étudiée là, c'est évidemment le mouvement dans les centres de rétention de retenue. Parce que c'est un mouvement qui a été totalement singulier, qui est inédit. Les retenues qui ont fait ce mouvement, ils l'ont payé cher. Hein. C'est Paul Vem, qui était au Ménil-Amelot, puis après qui a été transféré. Il a été expulsé. Abouendia Nord, qui est au Ménil-Amelot, il doit d'être resté en France parce qu'il a été transféré à Vincennes pour être expulsé et que ils ont pas respecté certaines. Il y a eu un vice de forme dans son transfert. Sinon, il aurait été expulsé également. Mais je crois que ce mouvement-là, il a été extrêmement important parce qu'il a aussi permis qu'une nouvelle parole soit émise. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la parole de militants de la cause des sans-papiers, c'est des sans-papiers, comme un peu le mouvement des sans-papiers travailleurs qui arrive en fait 3 mois plus tard, mais qui je pense qui est assez lié. C'est que pour la première fois, des retenus, la première fois dans cette ampleur-là, ont écrit des cahiers de doléances, ont dénoncé leurs conditions de rétention, ont dénoncé la politique du chiffre, et ils la dénoncent dès décembre 2007. Donc je crois que c'est extrêmement important que aussi on se souvienne de ça et qu'on donne la parole aux retenus qui l'ont fait. Après, au-delà des mobilisations citoyennes qu'on a pu observer ou qui vont continuer peut-être à se créer, la grosse question à voir, c'est aussi qu'est-ce que politiquement on propose face à la politique migratoire de Sarkozy. Et si on a écrit ce bouquin-là, c'est aussi pour... notamment faire pression sur le Parti socialiste, mais pas seulement, mais en tout cas pour faire pression sur ce parti-là, parce que si on se rappelle ce qui a été présenté lors de la campagne de 2007 par le Parti socialiste en matière d'immigration, c'est quand même un programme qui est très proche de ce que racontait Nicolas Sarkozy, avec beaucoup de gêne sur ce qu'ils allaient présenter et tout ça. Et je crois aussi qu'en dehors de nos démarches partisanes, il s'agit aussi d'aller voir tous les parlementaires de gauche et tous les partis politiques de gauche pour leur dire « Ok, maintenant, vous présentez quoi ? C'est comment vous contrez cette politique-là et avec quels arguments ? Et arrêtez de nous dire que vous êtes gênés. » Alors, je parle vraiment du Parti socialiste parce que le reste des formations politiques de gauche ont plutôt beaucoup travaillé la question et sont, à mon sens, beaucoup plus avancées là-dessus. Mais il est clair qu'un des moyens... Enfin, on sait très bien qu'on ne pourra pas se passer de les forcer à changer leur discours sur le migratoire si on veut un peu évoluer, quoi. Et c'est vachement compliqué.
Oui, parce que ça veut dire aussi, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, de fait, Sarkozy, il y a clairement un certain nombre d'innovations, et dans les pratiques et dans la façon de présenter les choses, mais il y a aussi poursuivre une tendance qui existait déjà, et que la gauche a suivi aussi. Et donc, le discours du PS, ça ne peut pas simplement être, moi je vais faire la même chose, mais comme nous, mais on est à gauche, cœur, ouais. On a du cœur, donc ça va être plus humain. D'abord, Sarkozy a déjà pris ce créneau-là, en réalité. Et par ailleurs, il faudrait qu'il réalise que la discussion, elle est pas là. Et l'autre truc, c'est... D'où l'intérêt d'analyser comment se fait cette politique et sur quel ressort elle joue. Et une des oppositions qui est souvent... Enfin, une des critiques qui est faite éventuellement à cette politique, c'est de dire c'est fait pour servir les intérêts des patrons. Et bon, ce qui a été vrai par le passé... Ce qui est certainement vrai pour une partie des gens qui mettent en œuvre la politique de Sarkozy, mais je ne crois pas que lui-même, ce soit vraiment dans ça qu'il est. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans la pratique, et c'est là une des absurdités, c'est que ce n'est pas comme s'il laissait aux patrons toute leur manœuvre bon marché. En réalité, ils n'arrêtent pas de leur poser des problèmes et d'expulser des gens qui sont très utiles à tous ces patrons. Donc voilà, on voit que Sarkozy, il est dans un tas de contradictions et de choses qui ne sont pas rationnelles. Et pourquoi ? Parce que lui, son objectif, c'est, une fois de plus, c'est son capital politique, c'est renforcer la crédibilité de l'État et de sa position de président à lui, en disant, j'ai des objectifs, j'ai une position forte, et je mets des moyens en œuvre, alors ça passe par la répression. Mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Donc voilà, si la gauche veut essayer de... Enfin, si le PS et même d'autres formations politiques veulent contrer la politique de Sarkozy, elles ne vont pas pouvoir simplement le suivre en disant « Moi, je vais faire un peu la même chose parce qu'on est d'accord sur les bilans, mais simplement, ce n'est pas la méthode qui va différer. » En réalité, la méthode, elle ne différera pas.
Voilà, donc l'émission se termine. On recevait donc ce soir Gaël Krikorian et Emmanuel Cos, deux des 20 auteurs du volume dont on parlait ce soir, Cette France-là, qui couvre un peu la période de mai 2007 à juin 2008. C'est publié, si j'ai bien compris, par Vos Soins et diffusé par les éditions La Découverte. Et par ailleurs, c'est un très bel ouvrage en termes de mise en page d'impression, tout ça, et vous vendez ça 15 euros, ce qui est on n'est pas obligé de désespérer du monde social quand on arrive à faire ça.
Par ailleurs, le livre est en accès libre à partir de la semaine prochaine sur le site, parce que l'idée, c'est qu'il soit diffusé le plus possible.
Alors le site, c'est www.cettefrancela.net. Sauf miracle, j'ai bien peur qu'on se revoie l'année prochaine pour la publication du deuxième volume de votre travail. Merci beaucoup d'être venu.